votre matinale info sur Europe 1.
Anthony Favalli.
Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour, avec bien sûr Guillaume Bigot.
Bonjour Guillaume. Anthony, bonjour à toutes et à tous.
Guillaume Bigot, politologue, et face à vous ce matin, c'est Ludovine Delarochère, présidente de la Manif pour tous. Bonjour Ludovine.
Bonjour.
Alors, on pense fort à vous ce matin, à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs. Si vous êtes bloqué par le manque de carburant dans les stations-service, si vous deviez partir en week-end ou tout simplement aller travailler, on parle officiellement de 19% des stations-service en difficulté, mais il y a des disparités selon les territoires. Ça grappe à 42% dans le Pas-de-Calais, 43% dans le Nord, 25% en région parisienne. Et c'est là qu'on retrouve notre reporter Augustin Donadieu. Bonjour Augustin, vous êtes porte de Saint-Cloud à Paris. Comment ça se passe ce matin?
Eh ben, ça se passe pas très bien pour les Parisiens. Réveil difficile, ils sont nombreux à s'arrêter ici à l'ouest de la capitale, devant cette station service fermée. D'ailleurs, les rues balises sont en place pour interdire l'accès à ces pompes qui sont à sec. Regardez, nous nous sommes procurés ce relevé des cuves qui indique clairement que toutes sont à sec. Le gérant qui se situe juste derrière nous a dit qu'il essayait de joindre en vain sa raffinerie. Personne ne répond, aucune indication sur une prochaine livraison. D'ailleurs, suivez-moi, on va aller voir Noélie et Agathe. Noélie et Agathe qui sont un petit peu désespérées ce matin puisqu'elles cherchent en vain des stations ouvertes. Bonjour Agathe, racontez-nous ce qui se passe.
Alors nous, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en soirée avec Miley et on a cherché depuis à peu près 00h30 une station essence pour mettre de l'essence, du coup. Et on en a fait, franchement, je pense bien 6. On a bien fait 6 stations, on n'en a pas trouvé. Donc on s'est dit, on va avoir ça demain matin. On est demain matin et on n'a toujours pas de station essence. On en a fait 3-4, je crois bien, et on n'a toujours rien. Donc là, on est en rade et maintenant, c'est un petit peu compliqué.
Mais alors justement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous nous avez montré votre compteur tout à l'heure, vous êtes sur la fin de la réserve. Comment vous allez faire pour rentrer chez vous?
Alors sincèrement, ouais.
Aléatoire, hein. C'est soit on rentre en moto et c'est un gros coup de chance, soit on pose la moto et on rentre à pied ou en bus ou... En roulant, je sais pas.
Ouais, ça va. Je pense qu'on va commander un Uber parce qu'on n'a pas le choix. En fait, on va garer la moto et on va commander un Uber. Sinon, on tombe en rade sur le périph' et là, bah, c'est plus marrant.
Effectivement, il vaut mieux pas prendre de risques. On va vous souhaiter bon courage pour votre retour à domicile. Effectivement, ce qu'elles ont vécu, nous aussi, nous l'avons vécu avec Charles Bagé juste avant ce direct. Nous avons tenté de faire le plein de notre véhicule. 5 stations. Toutes étaient fermées comme celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, hier, a été livrée de près de 21 000 litres de gasoil. Et tout le gasoil a été écoulé en près de 4 heures, selon le gérant.
Merci à vous, Augustin Donadieu. Merci également à Charles Baget qui vous accompagne. Il y a cette réalité du terrain qu'on constate avec vous. Puis les discours. Emmanuel Macron qui s'est exprimé depuis Prague, il nous dit pas de panique, il appelle les automobilistes au calme, ayez un comportement civique. Guillaume Bigot, est-ce qu'on infantilise les Français dans cette crise, dans cette pénurie?
C'est exactement le même mécanisme qu'on a vécu pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire que on a d'abord un phénomène de double langage. Le pouvoir veut dramatiser. Nous sommes en guerre, c'est la fin de la sobriété, il faut payer le prix de la liberté, on va peut-être passer libre, etc. Donc vous avez d'un côté ce discours-là, et de l'autre, mais finalement ça va bien se passer, pas de panique, il n'y a pas de pénurie. Pas l'habitude de défendre le gouvernement, mais ça me paraît normal que le chef de l'État et que le gouvernement essayent de calmer le jeu, parce que dans un mécanisme comme ça, de pénurie précisément et de panique précisément, bah, quand on est une autorité légitime, il vaut mieux essayer de calmer les gens, parce que sinon vous allez accroître, si vous voulez, le phénomène de panique. Comme il y a un phénomène de spéculation sur l'énergie, il y a aussi un phénomène de panique. Il y a voilà.
Mais Guillaume, j'ai l'impression qu'on nous dit exactement, Guillaume, comme pour l'insécurité. Non, il n'y a pas d'insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité. C'est un peu le.
Je vois ce que vous voulez dire. Il y a un phénomène, effectivement, de dire que le pouvoir ait un discours qui ne correspond pas à ce que les citoyens voient, en fait. Et ça ne fait qu'aggraver, que déchirer, en fait, le lien d'autorité, le lien civique entre les dirigeants et les dirigés. Je suis d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut se mettre dans la tête du gouvernement, au risque de surprendre. Je pense que s'il y a une situation très grave, en fait, il y a une pénurie, On va en reparler. Je pense que c'est le début d'ailleurs d'un mécanisme de pénurie, que le gouvernement est intégralement responsable, mais au point où ils en sont, compte tenu des bêtises qu'ils ont accumulées, ils n'ont plus tellement le choix d'essayer de calmer le jeu, parce que s'ils disent qu'il y a effectivement précipitez-vous à la pompe, ça ne va que faire qu'accroître le problème. Donc d'une certaine façon, pour la première fois, c'est plutôt une sorte de mensonge ou une sorte d'euphémisme, disons, pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Mais il y a ce phénomène de double langage, c'est déjà qui rend fou. Mais il y a surtout des fautes qui sont accumulées. La première faute, évidemment, c'est de déclencher des sanctions. Ça, c'est complètement fou. La deuxième faute, c'est de démantibuler toute la filière électronucléaire en France. Et les deux décisions ensemble, sans même parler d'adhérer à un système absolument ubuesque de marché européen d'énergie, les trois ensemble, vous avez des phénomènes qui vont se cumuler, qui vont faire monter à la hausse les prix. Et donc, qu'est-ce que va faire le gouvernement? Il va, pour essayer d'atténuer l'effet de ce choc de prix, il va concéder, il va demander à Total de baisser les prix et il va lui-même concéder ce fameux bouclier tarifaire. Mais comme c'est temporaire d'une part, c'est-à-dire que ça va s'arrêter, les gens vont stocker de l'essence ou vont essayer, il y a tout un mécanisme de spéculation dans lequel on rentre pas, c'est un peu compliqué, mais assez simplement, les gens vont essayer de faire leur plein d'essence avant que le prix n'augmente, puisqu'en plus, on sait bien qu'il va y avoir une date à laquelle ce bouclier tarifaire va être supprimé. Deuxièmement, comme il y a cette hausse déclenchée par les sanctions, eh bien évidemment, les pétroliers s'en mettent plein les poches, d'où la question des super-profits. Deuxième faute du gouvernement, il refuse, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays, de taxer les super-profits. Donc il va passer par ce mécanisme d'aide avec les effets pervers qu'on a vus. Donc le gouvernement est totalement en faute. Exactement comme sur les masques, il n'a pas stocké les masques, etc. Il s'est laissé prendre de court. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transfère la responsabilité de sa faute sur nous. C'est-à-dire avec une espèce de petite communication grotesque. J'ai vu ça, je baisse, j'éteins, je décale. Alors je baisse quoi? C'est la France qui baisse son pantalon face aux États-Unis, face à l'Union européenne et face aux multinationales. J'éteins quoi? J'éteins l'esprit critique des citoyens, j'éteins l'esprit civique. Je décale quoi? Je décale la responsabilité, ma responsabilité de dirigeant, sans rendre compte des bêtises que j'ai décidées, que j'ai ordonnées. Je décale la responsabilité de ces bêtises sur les citoyens que je prends pour des gens, pour des enfants de 4 ou 5 ans.
Alors, pour revenir, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, sur ces pénuries dans les stations-service, le ton déjà adopté par le gouvernement qui s'adresse aux Français en disant « soyez un petit peu plus civique ». Ne paniquez pas, ne vous ruez pas à la pompe, ne prenez pas des jerrycans pour les remplir et faire des stocks. Est-ce que ce n'est pas un petit peu infantilisant pour les Français aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs choses. Appeler au civisme, je pense que dans certaines situations, ça se justifie tout à fait. Mais là, c'est choquant parce que le gouvernement lui-même ou les dirigeants successifs, puisque les erreurs que pointait Guillaume Bigot ont été successives, elles sont très graves. Et pour ma part, j'ai...
Mais aggravées par ce gouvernement.
Et aggravées par ce gouvernement, on est tout à fait d'accord. Mais la première centrale nucléaire qui avait été... la baisse du nucléaire date de François Hollande en particulier. Et elle a été poursuivie et accentuée par Emmanuel Macron. Et en fait, il y a un manque de civisme, je le pense vraiment, de la part de ces gouvernements qui, pour des raisons politiciennes, sous la pression des écologistes, finalement par démagogie, ont pris des décisions que nous payons très cher aujourd'hui. Et pour des raisons électoralistes, des raisons de court terme, et en manquant de vue pour le moyen et le long terme, et donc en abandonnant l'intérêt général au profit de leur intérêt immédiat. Un manque de civisme, autrement dit, qui est extrêmement grave, qui est infiniment regrettable. Et donc appeler ensuite au civisme, c'est tout de même un comble. Par ailleurs, ceux qui doivent être appelés évidemment au civisme, ce sont ceux qui sont dans cette chaîne, en l'occurrence, d'alimentation en termes de pour tout ce qui est de l'essence. Et je parle bien sûr là des syndicats. Je trouve extrêmement choquant que ce syndicaliste nous dise « le droit de grève est constitutionnel ». Certes, il est constitutionnel, mais qui l'utilise, le droit de grève? Eh bien, uniquement et toujours et de manière systématique, des métiers qui sont en capacité de paralyser la France, de bloquer la France, et il y a une forme systématique de chantage. les Français sont, encore une fois, les victimes de ce type de fonctionnement, ou devrais-je dire de dysfonctionnement.
On va parler de la responsabilité des syndicats du secteur pétrolier dans un instant. Je voudrais qu'on prenne la direction de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, où l'activité de certaines entreprises est menacée. Et puis, en région parisienne également, dans le Val-d'Oise, une ambulancière qui craint pour la sécurité, pour la santé de ses patients, parce que justement, elle a besoin de son ambulance, de son véhicule tous les jours pour travailler. Regardez ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet et Sacha Robin.
Ambulancière depuis 16 ans dans le Val-d'Oise, Élodie peine à faire le plein.
Bonjour monsieur, il y a du gasoil ?
Non, il n'y a rien.
Il n'y a rien du tout.
L'ambulancière vient d'être mandatée par le SAMU pour assurer le transport d'une dame de 84 ans vers l'hôpital le plus proche. Mais en ces temps de pénurie d'essence, Élodie doit adapter sa conduite pour retarder son passage à la pompe.
La pénurie, c'est quelque chose qui est problématique pour nous. On essaye d'adapter notre conduite à cette consommation excessive que peut entraîner la conduite en urgence. Puisque c'est des accélérations, c'est des freinages.
Ces véhicules spécialement adaptés pour transporter des patients ou des blessés ne sont pourtant pas considérés comme prioritaires à la pompe, enfin pour l'instant.
Nous sommes en attente d'un décret de la part du préfet qui va nous permettre d'avoir des pompes et des stations-service réquisitionnées afin de nous permettre justement de plus rencontrer la problématique aujourd'hui de pouvoir faire rouler nos véhicules.
Avec un plein de 100 litres tous les deux jours, le ravitaillement de cette ambulance se fait la nuit pour éviter la pagaille et une perte de temps au détriment des patients.
Merci à mon équipe de nuit qui, entre les heures de 1h du matin et 4h du matin, ce qu'on appelle la nuit profonde, il y a un petit peu moins d'activité, donc ils ne chôment pas pour que nous, en journée, on puisse effectuer notre travail.
Même si Élodie peut compter sur son plein d'essence aujourd'hui et demain, elle redoute une panne sèche qui pourrait la conduire au chômage technique.
Voilà. Chef de l'État Emmanuel Macron, donc qui renvoie la balle aux Français, on le disait, mais aussi aux grévistes dans les raffineries, puisque l'origine du problème est là. Il appelle groupe pétrolier et syndicat à responsabilité. Toutes les revendications salariales sont légitimes, dit-il, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de vivre et de pouvoir circuler. Justement, Guillaume Bigot, la responsabilité, elle incombe à la CGT ou aux groupes pétroliers qui ne cèdent pas leurs revendications?
Elle incombe intégralement à ceux qui ont pris des décisions de nature politique et géopolitique qui ont conduit à cette situation. C'est parce que des sanctions ont été prises, qui nous ont tiré des balles dans le pied sans absolument aider les Ukrainiens, c'est parce que des décisions stupides ont été prises, qu'ensuite les marchés se sont emballés, que les prix ont augmenté, que les profits ont augmenté. Et excusez-moi, je pense qu'effectivement c'est assez choquant ce chantage qu'exercent finalement les gens qui travaillent dans ces compagnies pétrolières, les salariés. Mais grosso modo, quand vous voyez que là, normalement, le profit, qui est déjà très gras, hein, 2,2 milliards, c'était le profit de l'an dernier à la même date, à la même époque. Profit net, cette fois-ci, bénéfice net. Il va atteindre 5,7 milliards. Et ceci uniquement en raison de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire, un, de l'invasion de Poutine, et deux, de notre décision de nous soumettre à des instances dont c'est l'intérêt géopolitique pour sanctionner la Russie. Donc, c'était ce profit qui va exploser. Imaginez que vous êtes dans une entreprise, vous n'en verrez pas la couleur ou vous en verrez la couleur sous forme de...
Non, mais là, ce n'est pas tout à fait vrai pour ce qui est de Total Energy, puisque les salariés ont vu une hausse de leur salaire de
3,5%.
Je suis d'accord, c'est peut-être largement insuffisant.
C'est inique, hein, c'est totalement inique. C'est-à-dire que vous avez des profits qui sont complètement artificiels et le gouvernement refuse de les taxer. Moi, je pense qu'il ne faut pas les taxer au profit des seuls salariés de Total, ça ne serait pas juste, puisque les salariés de Total... D'une certaine façon, eux aussi, ils pourraient bénéficier, entre guillemets, de manière indue de la situation géopolitique. Non, si vous prenez les décisions de sanctions qui vont avoir pour effet d'augmenter les profits, vous taxez les profits et dans ce cas, vous les réutilisez pour l'ensemble de la population. Là, en l'occurrence, et pour empêcher d'ailleurs l'effet de la hausse. Là, je répète, ce qui a été décidé, c'est de laisser les entreprises et donc les actionnaires empocher ces profits. C'est la responsabilité de salariés, de simples salariés, qui ont une hausse qui n'a rien à voir avec la hausse des bénéfices de leur société, donc qu'ils connaissent. Évidemment que ça les incite à faire grève. Ils savent qu'ils ont ils ont un pouvoir de sanction.
Il y a des discussions encore le 15 novembre.
Si vous voulez, le poisson pourrait toujours par la tête. À partir du moment où les dirigeants sont cyniques et se servent eux-mêmes, et se servent des situations, mais se servent aussi des situations qu'ils déclenchent à leur propre profit, que ce soit un profit politique, que ce soit un profit capitalistique, le poisson pourrait par la tête. Comment vous devez demander aux gens qui sont dans la chaîne hiérarchique, soumis à des décisions, de ne pas faire ce que fait le haut? Voilà. Vous le dites, nous on fait ça, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Ludovine Delarochère, président de la Manif pour tous, à qui incombe la responsabilité de cette situation très compliquée pour tous les Français aujourd'hui?
Et de fait, d'abord, en effet, de ces sanctions, c'est tout à fait exact, de ces sanctions dont nous payons toutes les conséquences et dont on n'a pas l'impression qu'il y ait la moindre efficacité pour la Russie et effectivement encore moins pour l'Ukraine par conséquent.
Si ça augmente les profits de M. Poutine?
Absolument.
Et pour ce qui en est des syndicalistes de la CGT face aux directions qui ne veulent pas céder à leurs revendications, c'est 10% de salaire qu'ils demandent aujourd'hui.
C'est 10% de salaire qu'ils demandent aujourd'hui, et c'est vrai que compte tenu de l'inflation, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin d'augmentation de salaire. Néanmoins, dans le privé, on ne négocie pas en utilisant la grève. Il y a d'autres moyens de négocier. C'est vrai que s'ils n'ont eu pour augmentation que 3,5% et que rien d'autre n'est annoncé, c'est extrêmement étonnant.
Le bénéfice a augmenté de 100%, hein, pour information. Oui. 3,5%.
Ouais.
Ça vous donne un ordre d'idée.
Mais c'est même tellement étonnant que, pour ma part, je demanderai à en savoir plus et à avoir littéralement une enquête. C'est étrange, c'est clair. D'autre part, il y a bien d'autres façons, au lieu de coincer, de bloquer et de mettre la pression sur les Français, d'utiliser les Français finalement, d'instrumentaliser nos concitoyens, il y a d'autres moyens de négocier. Ça me paraît évident. Dans le privé, on ne recourt pas à la grève. On y a droit aussi. Étrangement, on n'y recourt pas. Dans le privé.
Là, c'est le privé. Hein.
Oui, c'est le privé. Donc, dans le privé, d'une manière habituelle, quand on n'a pas cet instrument qui permet d'exercer un chantage qui passe par nos concitoyens, alors effectivement.
Les fonds de pension font des chantages tous les jours, hein, toutes les minutes d'ailleurs. C'est-à-dire que si la rentabilité baisse, ils partent immédiatement ailleurs.
Oui, mais quand même.
Mais donc ça ne marche que pour le capital.
Dans une situation générale où tout le monde est victime des décisions qui ont été prises, qui sont clairement de mauvaises décisions, et les responsabilités, elles sont clairement de ce côté-là. Il y a d'autres manières de procéder.
Ludovine Delarochère et Guillaume Bigon, on va avancer sur nos thématiques. Ils ne sont pas particulièrement en difficulté, et pourtant, ils connaissent une hausse de leur rémunération, une hausse de 250 euros par mois pour les députés et les sénateurs de la Nation. Des députés qui bénéficient, manifestement comme tous les fonctionnaires, alors qu'ils n'en sont pas, de la hausse du point d'indice. Alors évidemment, autour de la table, vous me voyez venir avec ma question dans un instant, mais tout d'abord avec Elisa Lukavski qui nous a rejoint. On en parle avec vous. L'air de rien, cela pèse sur les caisses de l'État. Les caisses de l'État qui sont remplis par les impôts des Français.
C'est presque passé inaperçu. Jeudi, sur le site de l'Assemblée nationale, une modification a été publiée précisant que depuis le 1er juillet, l'indemnité versée aux parlementaires a été augmentée. Les députés et sénateurs bénéficient désormais d'une indemnité de 7 493 euros bruts contre 7 239 euros, soit une augmentation de 254 euros bruts, environ 160 euros nets. Une rémunération qui se compose d'une indemnité de base de 5 820 euros, d'une indemnité de résidence de 174 euros et d'une indemnité de fonction de 1 498 euros. Alors vous allez me demander pourquoi ce changement sur la fiche de paie de nos députés et de nos sénateurs. Eh bien parce qu'il y a eu un relèvement du point d'indice des fonctionnaires. Même s'ils ne sont pas fonctionnaires, la rémunération des parlementaires est calculée à partir du point d'indice qui a été relevé de 3,5% au 1er juillet par le gouvernement. Au total, avec cette augmentation, la rémunération des parlementaires, elle pèse plus de 164 millions d'euros, charges sociales incluses dans le budget 2022, soit près d'un milliard d'euros sur la durée du quinquennat.
Merci Elisa Lukavski pour ces précisions. Alors est-ce que les parlementaires, Guillaume Bigot, doivent renoncer à cette hausse? C'est ce que propose le député de la France Insoumise Antoine Léaumont, député de l'Essonne, ou est-ce que la proposition est démagogique?
Je pense que ça aurait été assez malin de prévoir de s'exonérer de cette hausse, puisque normalement le mécanisme c'est effectivement le point d'indice. Même si ce ne sont pas des fonctionnaires, il suffit d'augmenter le point d'indice pour que ça ait un effet sur la rémunération des parlementaires. Donc ça aurait été assez bien vu, parce qu'on n'est pas dans une situation où les Français peuvent comprendre finalement que les parlementaires s'augmentent eux-mêmes, même s'ils n'ont pas eu l'intention de le faire. Il en reste pas moins que la rémunération des parlementaires, même si ça peut être choquant, est relativement faible. C'est-à-dire qu'elle ne met pas les parlementaires à l'abri, d'une certaine façon, des pressions des intérêts privés, mais pas les parlementaires à l'abri des pressions de la corruption, etc. Dans les grandes démocraties, les parlementaires...
7 493 euros par mois, alors c'est une somme brute, ça paraît énorme pour la plupart des Français. 250 euros bruts sur cette somme-là, 160 euros net. Pour eux, ça ne paraît pas grand-chose. Est-ce qu'ils peuvent s'en passer ?
Bien sûr qu'ils peuvent s'en passer, et surtout symboliquement, la politique sont aussi des symboles. Là, aujourd'hui et maintenant, c'était particulièrement maladroit de ne pas avoir, d'une certaine façon, cette présence d'esprit, de ne pas bénéficier de cette augmentation qu'ils accordaient, parce que c'est le point d'indice, et parce que de toute façon, l'inflation est beaucoup plus importante. Il faut le rappeler que cette augmentation qui va résulter de l'augmentation du point d'indice, l'inflation sera du double de l'augmentation de salaire résultant du point d'indice, donc il aura été quand même bien vu pour eux de s'exonérer, mais je le rappelle, le fait que c'est quelque chose d'assez contre-intuitif, parce que on est très insatisfait des décisions des politiques en général, on est très insatisfait des partis politiques, de la représentation nationale, et à mon avis, pour des raisons qui sont distinctes, c'est qu'ils n'ont plus le pouvoir, précisément. Comme ils n'ont plus le pouvoir, et on le voit sur les questions d'ailleurs, les décisions prises au sujet des sanctions, le refus de taxer les super-profits, nos politiques finalement sont des fondés pouvoir d'un autre pouvoir. Le pouvoir s'appelle la Commission européenne, le pouvoir s'appelle Washington, le pouvoir s'appelle les multinationales, et on a d'une certaine façon, je ne dis pas des pantins, mais enfin on a des gens qui manifestement n'ont plus les manettes, n'ont plus le pouvoir. Si vous voulez restaurer l'autorité du politique, il faut aussi que les politiques, les élus, soient à l'abri de toute pression. Voilà, et c'est vrai pour les hauts fonctionnaires, c'est vrai aussi pour les élus. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment pas le moment de faire ça, et surtout pas.
Alors, il est 8h30, avant de donner la parole à Ludovine de la Rochère, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Elisa Lukavski.
Europe 1.
Ce serait une maladie et non des coups qui auraient tué l'Iranienne Mahsa Amini. C'est ce qui ressort d'un rapport médical établi par les autorités iraniennes. Arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire strict pour les femmes en Iran, elle est décédée 3 jours plus tard à l'hôpital. Des militants ont affirmé qu'elle avait souffert d'une blessure à la tête durant sa détention. Son décès a déclenché un mouvement de contestation dans le pays. Un incendie a eu lieu sur le pont de Crimée en Ukraine. A-t-on appris il y a quelques minutes, l'incendie sur le pont routier et ferroviaire aurait été provoqué par une voiture piégée, selon les agences russes. Pour rappel, ce pont stratégique constitue la principale entrée pour transporter les équipements militaires des Russes qui combattent en Ukraine. Et puis du foot avec la 10e journée de Ligue 1 et Lyon qui n'y arrive décidément pas. 5e match d'affilée sans victoire pour l'Olympique Lyonnais qui recevait Toulouse. Ça avait pourtant bien commencé pour les Lyonnais avec un but de Tété dans les premières minutes. Mais en seconde période, Ratao égalise pour Toulouse. Le score en reste là à 1 partout. L'OL 7e au classement après cette mauvaise série. Ce soir, le PSG se déplace à Reims. Ce sera à suivre à 21h sur Canal Plus Foot.
Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, je vous pose à votre tour cette question. Est-ce que les parlementaires doivent renoncer à cette hausse de 250 euros bruts de leur indemnité ? Je le rappelle, ce que nous disait Elisa Lukavski tout à l'heure, c'est quand même 1 milliard sur l'ensemble du quinquennat. Ça coûte 1 milliard aux caisses de l'État, de l'argent qui aurait quand même pu être injecté ailleurs. C'est peut-être démagogique ce que je vous dis là, mais il faut comprendre ce que les Français entendent quand on dit tout ça.
Oui, bien sûr. Alors, revenons aux faits très précis. Ce serait une augmentation de 3,5%. On disait tout à l'heure que du côté des salariés total, c'était très peu. Alors, c'était très peu par rapport à l'inflation, qui est quand même la première des choses. Mais c'est vrai aussi...
Et par rapport aux rémunérations rémunérations.
Si on prend les parlementaires, leur rémunération, elle est faible par rapport aux autres démocraties. Et leur rémunération me paraît en fait assez juste par rapport à leur niveau de responsabilité. Il ne faut pas comparer à la moyenne française, évidemment. Il faut comparer à des personnes qui ont des responsabilités. Alors, elles ne peuvent pas être équivalentes, mais disons qui exigent autant de travail quand les parlementaires sont réellement investis dans leur charge de parlementaire. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, un niveau élevé de compétences techniques, même s'il y a autour d'eux des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il y a autour d'eux des collaborateurs parlementaires, c'est vrai, mais quand ils font bien leur travail, et c'est ce que nous en attendons, alors je pense que leur niveau de rémunération est tout à fait légitime, voire relativement bas. Et par ailleurs, 3,5% au regard de l'inflation, c'est en fait insuffisant. Autrement dit, cette augmentation, elle me paraît normale, elle me paraît légitime, mais il est vrai que la politique, comme le disait Guillaume Bigot, est faite de symboles, et donc c'est maladroit là, à l'instant présent. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il vaille bien.
Il devrait y renoncer ? Ou maintenant que c'est fait, c'est fait ?
Alors, non, je pense que, maintenant que c'est fait, ça a été voté d'une certaine manière, et je pense que c'était même pas forcément, j'imagine qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient peut-être même pas réalisé. Maintenant c'est fait, et je pense que les Français peuvent comprendre qu'au regard de l'inflation,
on est en période de crise quand même.
Oui, on a décidé de, par exemple, d'augmenter leurs collaborateurs. Ce serait très simple de 3%.
Alors ça, ce serait très simple, voyez. Ce serait normal de le faire, bien entendu, voilà. Absolument.
Et on n'en parlerait plus, on passerait à autre chose.
Oui.
En général, quand vous faites une bêtise et que vous commentez la bêtise et que vous revenez sur la bêtise, ça l'aggrave.
Mais ce serait un autre moyen, en effet, de régler la question, puisqu'il n'y a pas que même, il y a leurs collaborateurs, c'est clair.
On va passer à autre chose. Ce vendredi à Paris, ils ont forcé les portes de l'hôtel de ville pour réclamer des logements. Il s'agit du collectif de soutien aux migrants La Chapelle Debout, une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des migrants eux-mêmes. Ils réclament une rencontre avec Anne Hidalgo. Leur slogan, Paris, ville refuge du racisme. Reportage Jean-Laurent Costantini et Arthur Muriot.
En pleine journée, une cinquantaine d'individus pénètrent de force dans la mairie de Paris. Ils sont membres du collectif d'immigrés La Chapelle Debout. Leur objectif, demander un entretien avec la maire de la ville Anne Hidalgo et son adjoint au logement Yann Brossa. Ce dernier accepte le dialogue dans un cadre plus officiel. Le collectif désigne une délégation de 8 personnes pour participer aux discussions avec l'adjoint et des membres du cabinet d'Anne Hidalgo. La Chapelle Debout met fin à l'occupation du bâtiment parisien. Ils ont obtenu la visite des équipes de la mairie dans un lieu qu'ils occupent depuis 6 mois, ainsi que la tenue prochaine d'une réunion entre la préfecture de région, celle de police et des représentants de la ville de Paris concernant l'hébergement d'urgence. Mais le collectif maintient la pression.
Au cas où on n'obtient pas ce que vous avez dit, on viendrait cette fois-ci. Nous n'étions pas méchants, mais on est capable d'être méchants.
S'ils n'obtiennent pas gain de cause, les organisateurs menacent déjà d'occuper d'autres institutions pour faire réagir les autorités.
Leur slogan, Paris, ville, refuge du racisme, la mairie de Paris plus prompte à accueillir, selon eux, les réfugiés ukrainiens, les touristes, les riches, mais pas les autres migrants. Est-ce que c'est un bon procès, Guillaume Bigot, qui est fait à la mairie de Paris, ou est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la situation des migrants par ces associations ?
Ne serait-ce que le terme migrant, c'est-à-dire migrant, avant on parlait d'immigrés et d'émigrés, c'est-à-dire qu'il y avait des pays de départ, des pays de destination, on pouvait dire que les gens étaient chez eux ou pas chez eux. La migrant, ça veut dire que vous, moi, tout le monde, la terre entière serait une zone aéroportuaire et on pourrait se promener comme ça d'un endroit à l'autre. Bon, c'est bien l'idéologie que ça véhicule. Et derrière les mots, il y a toujours de l'idéologie. Or, ces migrants-là, si on reprend l'expression migrant, ce sont des clandestins. Ce sont des gens qui, la plupart d'entre eux, ont été déboutés du droit d'asile. Donc, ce sont des immigrés économiques qui visent à une espèce d'immigration, de peuplement. En fait, c'est un transfert de population, de force, qui se fait parce que ces gens ont décidé que les conditions de vie étaient meilleures chez nous que chez eux et ils viennent s'installer. Je ne porte aucun jugement moral, je dis simplement la situation telle qu'elle est. Or, ces gens-là, non contents d'être dans l'illégalité, attaquent les bâtiments publics et en plus d'attaquer les bâtiments publics, ils nous insultent collectivement en nous traitant de racistes. Mais c'est une aimable plaisanterie. Je pense que dans les pays dont ils viennent, d'abord les migrants sont traités avec une brutalité, les immigrés seront traités avec une brutalité incroyable, ce qu'on n'appelle pas à faire ici, bien sûr, mais c'est quand même insensé. Donc je pense que Mme Hidalgo et M. Brossa, à la mairie de Paris, ont dit « bienvenue aux migrants ». Donc je pense qu'ils ont entendu le message et qu'ils ont répondu à leur invitation, à leur surprise partie à la mairie de Paris. 2, ils sont assez énervés ces migrants parce qu'effectivement on leur a promis des logements et qu'il y a un double discours là-dessus qui est assez classique. Hein. Tous les gens qui disent de faire venir des migrants, ils veulent évidemment pas les avoir dans leur salon ni dans leur ville. Mais bon, il est de bon ton d'adopter ce
discours. Et les municipalités renvoient la balle à la préfecture, qui renvoie la balle à la municipalité.
Et ça les rend fous.
Récurrent.
Accessoirement, on voit que il n'y a plus, disons, force ne reste plus à la loi. Ils sont clandestins, ils restent sur le territoire. Ils attaquent des bâtiments publics qui ne sont plus gardés. La police ne bouge pas. Alors s'il y avait eu 100 000 ou 200 000 personnes qui avaient déferlé, je comprends que les policiers étaient débordés, mais là, il y en avait manifestement même pas une centaine. Donc c'est totalement ridicule. Mais on voit bien la puissance symbolique du migrant, nouvelle vache sacrée, donc on va le toucher. C'est une sorte d'intouchable et c'est une sorte de surhomme dans la société postmoderne décadente. Enfin, dernier point, il y a 4 millions de Français non logés, mais évidemment, on va se couper en 4, si j'ose dire, pour leur trouver des logements à eux. C'est absolument inique.
Ludovine de la Rochère, vous abondez dans le sens de Guillaume Bigot ?
Alors oui, tout à fait. J'ai une petite réserve. Guillaume Bigot disait derrière chaque mot, il y a de l'idéologie. Alors je ne suis pas d'accord. Dans certains cas, là en l'occurrence, on est d'accord, derrière leurs mots, il y a de l'idéologie, c'est clair.
L'idéologie... Vous avez raison, derrière les mots retransformés. Voilà. Quand on transforme les mots, c'est jamais anodin.
Voilà, il y a des personnes qui transforment les mots et qui changent le sens des mots, mais ça n'est pas toujours le cas. L'idéologie, c'est quand même très très particulier. C'était simplement ce que je voulais dire. Là, à l'évidence, c'est très idéologique. C'est clair. Moi, je suis extrêmement choquée. Comme si on pouvait dire que Paris ou que les Parisiens n'étaient pas accueillants. Eh bien, moi, j'appelle à aller voir à la sortie des établissements scolaires aujourd'hui, partout dans Paris, et à voir si nous n'accueillons pas. Alors, ça peut être un accueil tout récent ou un peu plus ancien. Et on verra bien que nous accueillons beaucoup de personnes qui sont originaires d'autres pays, de manière, encore une fois, récente ou moins récente. Par ailleurs, cette manière... effectivement, d'attaquer, c'est plus qu'un bâtiment public, c'est la mairie de Paris, venant de personnes en situation d'illégalité, mais même s'ils étaient en situation de légalité, ce serait absolument scandaleux. Imaginons que la Manif pour tous, qui n'a pas pu obtenir de fait de rendez-vous avec Madame Hidalgo sur la question de la carte Paris Famille, qui a été supprimée il y a quelques années, sur la question de la fin des subventions à toutes les associations familiales parisiennes, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait pour la famille avant a été supprimé petit à petit par Monsieur Delannoy, puis par Madame Hidalgo. Ça explique aussi que beaucoup de familles quittent Paris parce qu'elles sont en difficulté pour se loger et pour y vivre. Nous avons tenté d'obtenir un rendez-vous que nous n'avons pas eu. Imaginez que nous ayons attaqué la mairie de Paris de cette manière-là pour obtenir un rendez-vous. Mais ça aurait été un scandale. Ça aurait été un scandale, évidemment. Et là, comme le disait Guillaume Bigot, ça passe. Ça passe. Et non seulement ça passe, mais ils sont reçus et ils obtiendront ce qu'ils veulent. Il y a un deux poids, deux mesures qui est invraisemblable.
Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il y a...
Un dernier mot.
Oui, ils ne sont pas des centaines de milliers, donc il y a vraiment un effet symbolique. C'est-à-dire, ce sont des vaches sacrées, donc dès qu'on voit des migrants, c'est-à-dire des gens qui symboliquement sont très importants pour d'une certaine façon, c'est la clé de voûte un peu du système, eh bien, on les laisse passer. Il ne s'agit pas de... Voilà, je ne dis pas que ça ressemble aux images du Capitole, ni de la mise à sac... par les francs ou par Alaric de Rome, faut pas exagérer, mais il y a quelque chose comme ça quand même, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des étrangers qui viennent s'installer chez nous et en fait ils prennent possession des lieux. Symboliquement, c'est très fort quand même.
Et puis c'est extraordinaire. En réalité, ils sont accueillis, ils ont des cartes pour assurer leurs frais de santé, ils touchent des moyens divers
et variés
d'allocations pour vivre. Certains travaillent, d'autres ne travaillent pas probablement. Alors certains travaillent en plus de manière illégale, donc de manière qui n'est pas du tout conforme à ce qu'a
pensé. C'est la première fois dans l'histoire qu'on finance une invasion.
Et ce qui nous est imposé à tous, toutes les règles qui s'imposent à nous, eux ne suivent pas ces règles, et on ne leur demande même plus de suivre ces règles. Tout ça est absolument invraisemblable. Et pardon, je voulais préciser une petite chose. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que la mairie de Paris ne donne plus de subventions aux associations familiales. Alors, il ne s'agit pas des associations familiales au sens classique du terme, UDAF, UNAF, etc. Je parle de plein d'associations qui travaillent auprès des familles, pour les familles. Voilà, donc c'est un cadre beaucoup plus large dont je parle. Et c'est vrai qu'elles ont perdu les moyens qu'elles pouvaient avoir par la mairie de Paris, qui subventionne en revanche d'autres associations très idéologues et de manière massive.
Allez, on avance. Ludovine de la Rochère et Guillaume Bigot avec moi dans la matinale de CNews et d'Europe 1. Situation très tendue en ce moment au sein de la police nationale depuis l'éviction du directeur de la PJ de Marseille, de la PJ Sud, Éric Arella, limogé au lendemain d'un coup d'éclat des policiers marseillais qui ont organisé une haie du déshonneur contre le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux. Évidemment, la décision a été perçue comme une forme de vendetta. À l'origine de tout ça, vous le savez, la réforme de la police judiciaire. On en parle juste après les explications de Célia Judas.
C'est sous les applaudissements qu'Éric Arella, directeur de la zone sud de la police judiciaire, quitte son bureau hier. Celui qui, durant 7 ans, a mené les enquêtes sur la grande criminalité dans le sud de la France, a été remercié plus tôt dans la journée. Une conséquence directe de l'accueil glacial réservé à Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, lors de sa venue dans un commissariat marseillais ce jeudi. Le silence régnait en réponse à la controversée réforme de la PJ.
Comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords, mais une telle déloyauté n'est pas acceptable. Les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais, avec des niveaux records d'homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés.
À Lyon, les policiers font grève brandissant des pancartes « Je suis Arella ». Des messages, également visibles à Versailles où une Marseillaise est entamée, tout comme à Nanterre. Une mobilisation nationale qui a également touché Strasbourg, Nice, Lille et plusieurs autres villes du pays.
Les effectifs, eux, ils ont besoin de savoir qu'on les entend. Et ils sont poussés à des actions de ce type par l'absence complète de dialogue. Je pense qu'il y a un problème de communication, monsieur le directeur général, avec la base, ce qui est passé par ses directeurs. Et là, on voit bien que quand un directeur n'est pas d'accord, quand il y a une action d'effectifs, c'est le directeur qui saute.
Éric Arella sera désormais chargé de mission à la Direction générale de la police nationale. Quant à la réforme de la PJ, elle doit être évoquée lundi durant un séminaire des procureurs généraux. Une manifestation contre ce texte est déjà prévue le 17 octobre.
Et donc la direction de la police nationale qui a réussi l'exploit de mettre plusieurs centaines d'agents à la rue ces derniers jours face à effectivement ce limogeage. Et puis sur fond d'une réforme à marche forcée de la police judiciaire en France, Guillaume Bigot, avec cette crainte bien sûr pour la police judiciaire de ne plus pouvoir gérer les grandes affaires de banditisme, de pouvoir enquêter sur le temps long et de devoir gérer voilà, les affaires courantes de la sécurité publique.
Rien ne va, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ce pouvoir ne veut pas de fonctionnaires capables de lui résister, ne veut pas de fonctionnaires de très grande qualité, qui ont le sens du service de l'État. C'est pour ça qu'il y a démantèlement des grands corps de l'État, c'est très grave. Hein. C'est depuis la mise en place de l'État par Jean Bodin, François Ier, etc. On est vraiment sur le temps long historique. Il y a une volonté de démanteler l'armature administrative de la France qui a fait la France. Donc il n'y a plus de corps diplomatique. Et là, c'est un autre pan de la structure administrative de la France qui tombe. La police judiciaire, la fameuse CRIM, qui vient des Brigades du Tigre inventées par Clémenceau. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi? Ce sont des hauts fonctionnaires de police, ce sont des officiers de police qui ont une technicité particulière, qui sont des grands professionnels qui se recrutent entre eux et qui, grosso modo, sont dans des enquêtes de long terme. C'est-à-dire qu'ils poursuivent le grand banditisme et il faut beaucoup de temps pour ça, beaucoup de moyens pour ça. Ils poursuivent la pédocriminalité, ils poursuivent le cyberharcèlement, c'est les fameux cold cases, les affaires non résolues. Voilà. Et ces gens-là qui ont une technicité, qui ont un très grand professionnalisme, on va les affecter, peut-être pas pour faire des contraventions ou faire la circulation, mais on va les affecter à la sécurité publique. C'est ça que ça veut dire. Et donc ça, c'est un premier point, c'est quelque chose de caractéristique, c'est qu'il y a une volonté, si vous voulez, d'abattre les fonctionnaires d'une certaine façon d'élite et de vraiment qu'il n'y a plus une tête qui dépasse pour le pouvoir politique. La deuxième chose, c'est au nom de quoi ça se fait? Ça se fait au nom des petites économies de bout de chandelle. C'est toujours la même histoire, optimiser, vous comprenez, il y a des gens qui sont ici, ils font rien. Imaginez dans une entreprise, il y a la comptabilité, le service comptable est débordé, vous refusez pour des raisons budgétaires, de recruter des comptables. Donc, vous allez prendre des ingénieurs et vous allez les affecter à la comptabilité. En fait, c'est exactement ça qui est en train de se produire. Mais l'autre but, c'est aussi la campagne de communication permanente de M. Darmanin qui veut plus de chiffres dans des affaires, de voie publique et qui veut afficher des statistiques meilleures. Et donc, pour ça, il n'hésite pas à mettre au pas, il n'y a pas d'autre terme, et à mettre à disposition des préfets dans les départements des gens qui sont de très grands professionnels et qui s'occupaient de sujets infiniment plus graves pour l'ordre public, pour la sécurité. Voilà, c'est pour ça. Et donc, évidemment, ça déclenche une réaction d'autant plus de colère que les gens, ils savent de l'intérieur de quoi il s'agit, ils savent que c'est vraiment une politique de gribouille et à quel point ça va faire mal à l'État et mal à la sécurité des Français. Et en plus, on leur vend par-dessus le marché qu'il va y avoir une concertation alors que c'est fait à coup de trique. Non, mais c'est une blague.
Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, c'est une menace pour les enquêtes de la police judiciaire que cette réforme?
Oui, je pense véritablement. Tout le système, tout le processus des enquêtes fonctionne de manière tout à fait remarquable. Alors certes, toutes les enquêtes n'aboutissent pas à l'élucidation des affaires, mais un très grand nombre aboutissent. Et c'est un travail qui est mené avec beaucoup de compétences, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement personnel, très fort de la part de ces policiers, très spécialistes. Il est vrai que on est dans un contexte infiniment difficile et c'est le moment où on décide de réformer cela de manière très profonde, de casser en vérité. C'est un peu comme Guillaume Bigot évoquait la diplomatie. Et de fait, du côté de la diplomatie, les relations internationales n'ont jamais été aussi difficiles et aussi complexes. On n'a jamais eu autant besoin d'experts, autrement dit, de connaisseurs dans le temps long qui ont, par exemple, pour la diplomatie, une connaissance de l'histoire de chacun des pays, de l'histoire des relations internationales. Pour comprendre ce qui est en cours, il faut avoir une véritable expertise et en plus sur le temps long. Et casser le corps diplomatique, est très grave. Et là, c'est exactement la même chose. Mais rappelons-nous que le premier parti d'Emmanuel Macron, enfin son parti s'appelait d'abord En Marche. En Marche, et donc être en marche, être en mouvement, être en soi un but, ça veut dire notamment que réformer pour réformer, quitte à casser et à démolir au passage, peu leur importe, il faut réformer pour réformer.
Voilà, c'est en marche, c'est un rouleau compresseur pour écraser tout ce qui est fait.
C'est tout à fait exact. C'est d'une absurdité sans nom, comme l'atteste ce nom de En Marche lui-même, tout simplement.
On va parler de la situation en Ukraine à présent. Une dernière dépêche qui vient de tomber. Un incendie dû à une voiture piégée paralyse le pont russe de Crimée. C'est le pont qui relie justement la péninsule de Crimée à la Russie. Une voiture piégée a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, nous dit-on, infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme. C'est ce qu'a annoncé samedi le Comité national antiterroriste russe, sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine. Ce pont construit à grands frais sur ordre de Vladimir Poutine, notamment au transport d'équipements militaires de l'armée russe combattant en Ukraine. Peut-être une réaction là-dessus, Guillaume Bigot.
Oui, c'est une information importante parce que jusqu'à présent, les frappes en Crimée étaient très discrètes de la part des Ukrainiens et en général pas tellement revendiquées, assumées. Là, ça semble être le cas. Deuxième commentaire, la première victime dans une guerre, c'est l'information et la vérité. Donc effectivement, c'est très compliqué. Ça pourrait être... ça m'étonnerait, mais enfin, ça pourrait être une manœuvre russe pour justifier ensuite de contre-mesures. Mais le plus probable, c'est que ça intéresse évidemment les Ukrainiens, comme vous l'avez dit, que ce pont ne soit plus en circulation parce que c'est un axe décisif, d'autant plus qu'il y a des combats du côté de Kherson. Et donc, l'acheminement de biens, de matières premières, etc., depuis le nord, devient plus compliqué. Donc, ce pont devient de plus en plus stratégique. Donc, pour eux, le couper, c'est couper une artère, en fait, qui relie la Russie à la Crimée.
L'armée ukrainienne qui a repris, selon Volodymyr Zelensky, les propos qu'il a tenus la nuit dernière, près de 2500 km de territoire aux forces russes depuis la fin septembre, dont près de 800 km² et 29 localités rien que cette semaine. C'est juste de la communication, Guillaume Bigot, où on peut prendre pour argent comptant ces victoires annoncées par Zelensky?
Non, c'est pas du tout de la communication, parce que dans un conflit, la question du moral des troupes est essentielle, la question de la dynamique et des tendances est vraiment essentiel. Et là, manifestement, l'armée ukrainienne qui avait réussi une offensive de grand style vraiment à la fin du mois d'août sur le nord, en faisant croire d'ailleurs qu'ils allaient attaquer sur le sud, s'est dit, bon, ben voilà, c'est déjà un exploit, ils vont s'arrêter là. Manifestement, ils continuent à avancer. Donc, cette dynamique, elle existe et elle peut pas être prise à la légère. Mais elle doit être relativisée parce qu'ils ont pris 2500 km² sur une surface totale de 12 500 km². Autrement dit, il reste 90% du territoire qui a été conquis par la Russie pour les Ukrainiens à récupérer. Ils n'ont récupéré finalement que 10% de leur territoire. Donc la guerre, je le crains, risque d'être encore longue.
Poutine est-il comme l'ours blessé? Est-il dangereux au point de nous faire basculer dans l'apocalypse nucléaire comme l'affirme Joe Biden?
Écoutez, je ne sais pas si l'OTAN est en mort cérébrale, mais je ne suis pas certain que le président des États-Unis ait totalement toutes ses facultés. Parce que non seulement il multiplie les déclarations qui sont vraiment alarmistes, inquiétantes, et puis ensuite il fait machine arrière, enfin, on ne comprend pas bien, cet homme a l'air assez perdu, et je trouve que c'est ça finalement qui rend la situation inquiétante. On a d'un côté, vous l'avez dit, et c'est vrai, un homme qui est resté 22 ans au pouvoir, qui a été un grand joueur d'échecs géopolitiques, qui a aussi, il faut dire, fait du bien à son pays au début, c'est Vladimir Poutine. Peut-être est-il resté trop longtemps au pouvoir. En tout cas, ce grand joueur d'échecs est devenu un joueur de poker sanguinaire et à mon avis, un peu maladroit. Donc ça, c'est déjà inquiétant. Il pourrait être acculé. Et de l'autre côté, on a manifestement quelqu'un qui est un peu au bout du rouleau. Je dis pas qu'il est sénile, mais enfin, il a manifestement pas toute sa tête. Et il est à la tête de la première puissance du monde. Donc les deux ensemble, oui, c'est pas très rassurant.
On arrive déjà à la fin de cet échange, Ludovine de la Rochère. Merci à vous pour avoir participé à cette émission. Merci également à vous, Guillaume Bigot. Vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Sur CNews, tout d'abord, la matinale week-end continue. Puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
Merci beaucoup, Anthony Favalli. Et à demain vers 8h10. Et bonjour, Frédéric Taddeï. Quel est le programme ?
Bonjour Lénaïque, eh bien l'apocalypse nucléaire dont a parlé Joe Biden jeudi, on va voir ça avec Yves Bourdillon, le phénomène des dark stores et la réponse que compte lui apporter le gouvernement, on voit ça avec Aurélien Rouquet et puis on terminera l'émission avec une légende de la chanson, c'est Gérard Manset.
Merci beaucoup Frédéric et à tout de suite, ce sera juste après le journal de 9h.